Les étoiles parsèment la nuit qu'on aperçoit clair par les fenêtres. Ils sont 10, 11 personnages de la plus haute importance, assis en cercle sous les voûtes, entre les piliers à chapiteaux sculptés. Et ils sont très peu. Ils ne se donnent pas à eux-mêmes une véritable impression de force. Le roi de caractère faible et d'entendement limité est de surcroît sans famille directe, sans serviteur personnel. Les princes ou les dignitaires autour de lui ce soir assemblés, qui sont-ils? Des cousins, ou bien des conseillers hérités de son père ou de son oncle? Nul qui soit véritablement à lui, créé par lui, lié à lui. Son père avait 3 fils, et 2 frères siégeant à son conseil. Et même les jours de brouille, même les jours où feu Monseigneur de Valois jouait les ouragans, c'était un ouragan de famille. Louis Hutin avait 2 frères et 2 oncles, Philippe le Long, ces mêmes oncles qu'il appuyait diversement, et encore un frère, Charles lui-même. Ce survivant n'a presque plus rien. Son conseil fait penser irrésistiblement à une fin de dynastie. Le seul espoir d'une continuation de la lignée, d'une dévolution directe, dort au ventre de cette femme silencieuse, ni jolie ni laide, qui se tient les mains croisées auprès de Charles, et qui se sait une reine de rechange. La lettre, la fameuse lettre dont on est occupé, est datée du 19 juin et vient de Westminster. Le chancelier la tient en main, la cire verte du sceau brisé s'écaille sur le parchemin. Ce qui a produit si grande ire au cœur du roi Édouard paraît bien être que Monseigneur de Mortimer ait tenu le manteau du duc d'Aquitaine lors du couronnement de Madame la Reine. Que son personnel ennemi soit aposté auprès de son fils, en telle marque de dignité, Sire Édouard ne l'a pu ressentir que comme personnelle offense. C'est Monseigneur de Marigny qui vient de parler, accompagnant parfois son propos d'un geste de ses doigts où brille l'améthyste épiscopale. Ses 3 robes superposées sont d'étoffes légères, ainsi qu'il convient pour la saison, et la robe de dessus, plus courte, tombe en plis harmonieux. On reconnaît par moments chez Monseigneur de Marigny un peu de l'autorité du grand Enguerrand dont il est maintenant le seul frère survivant. Le visage du prélat paraît sans faiblesse, barré de sourcils horizontaux, de part et d'autre d'un nez droit. Monseigneur de Marigny, si le sculpteur respecte ses traits, fera un beau gisant pour le dessus de son tombeau. Mais dans longtemps, car il est jeune encore. Et il a su tôt profiter de la fortune d'Enguerrand, quand celui-ci était au plus haut de sa gloire, et s'en séparer à point nommé quand Enguerrand fut précipité. Toujours, il a traversé aisément les vicissitudes qu'entraînent les changements de règne. Récemment encore, il a bénéficié des tardifs remords de Charles de Valois. Il est fort influent au conseil. « Cherchemont, » dit le roi Charles à son chancelier, « refaites-moi lecture de cet endroit où notre frère Édouard se plaint de Messire de Mortimer. » Jean de Cherchemont déplie le parchemin, l'approche d'un cierge, marmonne un peu avant de retrouver les lignes en cause et lit. L'adhérence de notre femme et notre fils, avec nos traîtres et ennemis mortels notoirement connus, en tant que le dit traître, le Mortimer, porta à Paris la suite de notre fils publiquement, en la solennité le couronnement de notre très chère sœur, votre compagne la reine de France, à la Pentecôte dernière passée, en si grande honte et dépit de nous. L'évêque Marigny se penche vers le connétable gaucher et lui murmure « Que voilà lettre bien mal écrite ». Le connétable n'a pas bien entendu. Il se contente de bougonner. « Un hors-nature, un sodomite !»« Cherchemont, » reprend le roi, « quel droit avons-nous de nous opposer à la requête de notre frère d'Angleterre lorsqu'il nous enjoint de supprimer ses jours à son épouse ?» Cette manière de la part de Charles le Bel, de s'adresser à son chancelier, et non pas de se tourner comme il le fait d'habitude vers Robert d'Artois, son cousin, l'oncle de sa femme, son premier conseiller, prouve bien que pour une fois, il a une volonté en tête. Jean de Cherchemont, avant de répondre, parce qu'il n'est pas absolument sûr de l'intention du roi et qu'il craint d'autre part de heurter Monseigneur Robert, Jean de Cherchemont se réfugie dans la fin de la lettre comme si, avant de donner un avis, il lui fallait en méditer davantage les dernières lignes. « Ce pourquoi, très cher frère, lit le chancelier, nous vous prions de rechef si affectueusement et de cœur comme nous pouvons, que cette chose que nous désirons souverainement, veuillez nos dites requêtes entendre et les parfaire bénignement et tôt à effet, par profit et honneur d'entre nous, et que nous ne soyons déshonorés. » L'évêque de Marigny secoue la tête et soupire. Il souffre d'entendre une langue si rugueuse, si gauche, Mais enfin, toute mal écrite qu'elle soit cette lettre, le sens en est clair. La comtesse Mao d'Artois se tait, elle se garde de triompher trop tôt. Et ses yeux gris brillent dans la lumière des cierges. Sa délation de l'automne dernier et ses machinations avec l'évêque Dexter en voici le fruit mûr au début de l'été et bon à cueillir.